il faut inonder d'histoire de femmes le récit pour que ça ne soit plus un sujet.
Bonjour. Le podcast des Petits Papiers, c'est une rencontre avec une invitée et une conversation pour découvrir son travail et qui elle est à travers des mots choisis pour elle. Dessiner, c'est son métier et à l'écouter, ça semble être un beau métier. C'est à travers un blog BD, Ma vie est tout à fait fascinante, qu'elle a fait ses premiers pas dans la BD. Elle publiera ensuite la série Joséphine, il y aura Cadavre exquis, Star des stars avec Johan Sfar, California Dreamin', les deux tomes de Culotté, immense succès, et puis Sacrée sorcière d'après Roald Dahl, Les Strates et aujourd'hui La nuit retrouvée en collaboration avec l'autrice Lola Lafont. Bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
J'ai pas tout cité de activités et de votre de vos publications parce qu'on va y passer trop de temps sinon, mais avant tout, est-ce que j'ai raison de dire que vous considérez que vous faites un très beau métier?
Oui, en tout cas je considère que j'ai beaucoup de chance de le faire parce qu'il n'y a pas grand chose que je suis capable de faire pendant autant de temps sans en avoir marre que faire mon métier, à part dormir peut-être, et je pense que c'est une chance de me dire que tant que je passe du temps à faire mon métier, je suis heureuse, c'est plutôt pas mal.
Ouais, vous pouvez le dire parce que vous avez fait d'autres choses de manière ponctuelle. Hein. Je pense que vous avez même fait des chroniques en télévision et d'autres activités périphériques. Donc, le dessin, la bande dessinée, c'est toujours le retour à la maison.
C'est toujours, même dans les moments où je me sens un peu flottante, je ne sais plus trop ce que je pense et je me dis bon, allez, on va se faire une bonne journée de travail. Dit comme ça, ça paraîtrait... girl boss, entrepreneur, pas du tout. C'est vraiment de me dire, de nouveau, avoir 3 ans et demi, être à ma table chez moi, à dessiner mes BD avec mes chats autour. Et il n'y a quand même pas grand-chose qui me recentre, on va dire, autant que ça.
Alors, le dernier livre s'appelle donc La nuit retrouvée, en collaboration avec Lola Lafont. Je vais essayer de faire un petit résumé sans trop en dire. C'est la description d'un moment précieux entre une mère et sa fille, un moment de confidence, une brèche qui va s'ouvrir sur un souvenir enfoui qui va être partagé. La mère raconte donc à sa fille quelque chose qu'elle a toujours tue, et peut-être même quelque chose qu'on éviterait de raconter à son enfant normalement.
Oui, on éviterait de le raconter parce que je pense aussi qu'on sent bien que les enfants n'ont pas envie de le savoir. Moi, si j'avais ce genre de conversation avec ma mère, je pense que je n'aurais pas autant déroulé le fil que le fait la fille de l'héroïne dans l'histoire. Parce que cette fille a envie de savoir des choses sur sa mère et notamment qui était sa mère en profondeur, en dehors d'être sa petite mamounette.
Oui, elle dévoile quelque part qui est la femme qui se cache derrière la mère. Et puis, ça nous rappelle à tous que nos mères sont des femmes aussi.
Oui, et qu'elles ont eu une vie avant nous, pendant nous, qu'il s'est passé plein de choses et qu'elles ont infiniment plus de relief et de complexité que juste le rôle de mère dans lequel on les mettait quand on était petit.
Oui, et qu'on continue parfois.
Et qu'on continue parfois, oui. Je ne sais pas pourquoi je précise petit.
Parce que vous dites, Pénélope, que vous ne dérouleriez pas avec votre mère. Est-ce que votre mère, elle a lu l'album ?
Ma mère l'a lu, bien sûr. Et ce qui est amusant, c'est que dans son entourage, des gens pensaient que c'était un témoignage que je livrais de nous. Ce qui est amusant, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit l'histoire, déjà. Et puis parce que pour eux, ce n'était pas possible que ça parle d'une autre mère que la mienne. Et du coup, ils l'ont félicité pour le courage qu'elle a eu de se livrer comme ça à sa fille. Donc c'est très drôle puisque c'est vraiment pas du tout ma mère.
Oui, mais ça c'est la tendance des proches aussi à toujours vouloir se reconnaître dans l'œuvre ou reconnaître quelque chose dans l'œuvre de quelqu'un qu'ils connaissent. Collaboration avec Lola Lafont, donc autrice qui aime bien s'intéresser aussi comme vous à la vie des femmes ou en tout cas à ce que sont les femmes.
Oui, et puis aux trajectoires qui paraissent anodines, mais qui ne sont pas tant que ça. Elle dit quelque chose que je trouve très juste. Elle aime bien les histoires de gens qu'on pense sans histoire. Et ça me plaît bien aussi. C'est pour ça que cette héroïne qu'on a créée, on était très attentive au fait qu'on voulait que ce soit une femme qui ait dépassé la cinquantaine, puisque c'est quand même l'élément introuvable dans la fiction en général. Mmh. C'est que les femmes n'existent plus après 50 ans, on a l'impression. Donc on avait envie de raconter ça, d'essayer de ne pas être dans les clichés d'une femme dont les seules préoccupations sont son foyer. Et on avait envie qu'elle ait cette profondeur-là et qu'elle se déploie comme ça dans toute une gamme d'émotions que sa fille découvre.
C'est aussi raconter, cette nuit retrouvée, que chacun, chacune a quelque chose, une histoire à raconter. Aussi ordinaire semble-t-il être au quotidien, tout le monde a une histoire à raconter.
Tout le monde a des histoires à raconter, bien sûr. Et puis, en revanche, tout le monde n'est pas écouté. L'héroïne Hélène décide un peu comme ça sur un coup de tête de se livrer petit à petit. Elle porte pas un toast pour raconter son histoire et que tout le monde l'écoute. Ça passe par elle joue à un jeu de société, elle fait deviner un mot et puis finalement elle recule, elle y retourne. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a trois enfants. Déjà, oui. Sur les trois, il y en a deux qui s'en foutent complètement de ce qu'elle raconte. Et puis il y a sa fille, qui est celle qui oui. va rester
elle écouter. Elle a deux fils. Elle a deux fils. Et c'est la fille qui va écouter.
C'est la fille qui écoute. Ouais. Mais même la fille, au début, elle écoute à moitié d'une oreille. Elle est un peu sur son téléphone en même temps. Parce que les gens n'annoncent pas que la révélation qu'ils vont faire sera une révélation. Ça peut paraître une histoire, on n'est pas obligé de bien écouter. Et puis, en fait, c'est dans les petites anecdotes que se cachent les pavés dans la mare. Donc, il faut aussi qu'en face, les gens soient capables d'écouter. Et je trouve que c'est difficile d'être une bonne oreille pour ce type de confidence.
Oui, on entend souvent aussi des gens dire, une fois que leurs parents ne sont plus là, « Oh, j'aurais dû poser des questions, j'aurais dû m'intéresser ». C'est peut-être un message aussi de ce livre, de dire peut-être qu'on devrait s'intéresser un peu plus aux gens tant qu'ils sont là.
Oui, pendant qu'ils peuvent encore raconter leurs histoires. Même si on n'a pas toujours très envie, ou même si on se dit que ça va changer le regard qu'on a sur eux aussi, parce que c'est sûr que tout d'un coup, c'est quand même un nouvel éclairage sur les parents ou la famille. Oui, oui. Ça change même l'image qu'on se fait de soi-même. De changer ses parents, c'est se changer soi. Donc oui, effectivement, plutôt que d'avoir des regrets, ça peut valoir le coup, surtout... Là, en l'occurrence, dans l'histoire, sa fille n'est plus une petite fille. Elle a l'âge qu'avait sa mère quand elle l'a eue. Ce sont deux femmes, en fait, qui se parlent. Mm-hmm. Ce n'est plus une histoire de maman et de fille. Et puis, du coup, le rapport se mélange. C'est-à-dire que là où, habituellement, une enfant va se confier à sa mère et lui raconter un secret, et sa mère va trouver des solutions pour l'aider, bon, là, ce n'est plus du tout le cas. C'est cette fille qui va autoriser sa mère à reconvoquer ses souvenirs. Donc, elles sont dans une horizontalité... qui est possible une fois qu'on est adulte.
Le livre s'appelle « La nuit retrouvée ». Il est paru chez Gallimard. Pénélope Bagieu est notre invitée dans les petits papiers aujourd'hui. Alors le principe, ce sont des papiers avec des mots inscrits dessus. Des mots qui devraient vous parler, théoriquement, j'espère. Je vais les mettre devant vous. Et puis vous piochez, et puis on voit ce que ça raconte. Vous nous dites ce que ça évoque.
D'accord. Est-ce que je fais un peu d'ASMR pour déplier mon papier? Processus. Alors là, par exemple, pour cet album-là, il a été bien bousculé, mon processus créatif, puisqu'habituellement, je suis une sorte de dieu qui pense tout et qui me débrouille toute seule de A à Z, et que là, j'ai dû travailler sur l'idée d'une histoire de quelqu'un d'autre. Et à la fois, c'est quelqu'un que je suis allée chercher pour ça, donc on ne m'a pas non plus imposé de contraintes.
Oui, Lola Lafont, vous aviez envie, en tout cas, vous connaissiez son travail avant, elle connaissait le vôtre et vous aviez...
Oui, oui, on était lectrices des livres de l'autre et quand on s'est rencontrés, qu'on a parlé de absolument tout sauf de travail pendant des heures, une des conclusions que je me suis faite après ce moment, outre le fait qu'elle était super et qu'on pourrait boire des coups toute la vie, je me suis dit ce serait vraiment super qu'on fasse un livre ensemble parce que je trouve qu'elle a presque ce qui manque moi au départ de mon travail, c'est-à-dire une bonne idée d'histoire. Je me dis c'est une personne qui est capable d'inventer des bonnes histoires. Et donc je lui ai demandé si elle aurait envie de faire une bande dessinée avec moi. Et donc on a commencé à travailler ensemble, à chercher une histoire à créer ensemble de toutes pièces. Et même si on adorait nos séances de travail, on n'était pas vraiment convaincus ni l'une ni l'autre par ce qui en sortait. Et puis à un moment, elle m'a dit « Tu sais, sinon j'avais une autre histoire dans ma manche dont j'ai jamais rien fait. Je te la fais lire. Tu me dis si tu trouves ça bien. » En fait, elle était très anxieuse parce qu'elle adorait cette histoire et qu'elle avait peur que je lui dise que c'était nul.
Ouais.
Et en fait, pas du tout, j'ai adoré. Et dès que je l'ai lue, vraiment c'était instantané. Je voyais dans ma tête les scènes. Je sentais que ça allait être j'allais me régaler déjà à le découper. Et à le mettre en scène, et que ça serait aussi un très grand plaisir de dessin.
Et voilà, mais le processus, c'est aussi, d'après ce que vous dites, le moment où vous commencez à dessiner, où vous avez le début d'une histoire ou d'une idée, vous dites que le processus de dessiner, de créer, d'inventer les décors, c'est ce que vous préférez dans le travail, et que c'est à ce moment-là que c'est le plus jubilatoire pour vous.
Oui, la mise en scène, en fait, c'est vraiment ce que j'aime le mieux. C'est de me dire, on me donne une phrase, on me dit, ces enfants ont tendance à toujours... lui reprocher d'être trop prudente et d'être trop précautionneuse. Et moi, je me dis, bon, il faut que j'imagine une scène où ils sont tous ensemble et où ils ont l'occasion de mettre en lumière ces dynamiques-là. Je vais leur faire faire la cuisine tous ensemble. Voilà, comme ça, on va voir qui est qui n'en fout pas une, qui est celui qui...
Ouais.
Et ça, c'est un moment très excitant, en fait, d'avoir ça en tête. Et après, la difficulté, c'est une fois que cette scène est très, très claire dans ma tête, c'est de réfléchir à comment faire qu'elle soit plus seulement dans ma tête, mais que d'autres gens puissent la feuilleter. Et donc, c'est encore une autre joie, je trouve, c'est de jouer comme à la poupée dans ma tête avec des personnages, quoi, et d'imaginer qui est où, qui dit quoi, qui regarde l'autre, comment. Et ça, j'adore être tous les acteurs et en même temps chef d'écho.
Apparemment, vous faites tout le livre d'un coup. Mmh. Vous appelez ça un livre moche, ou en tout cas, je vous ai entendu l'appeler comme ça dans des interviews. Et ce livre moche, c'est quelque part le livre définitif sur lequel vous revenez très peu après. Quand vous remettez au propre, tout y est déjà, il n'y a pas trop de corrections.
C'est exactement ça, sauf que là, dans ce processus-là, pour cet album-là, vu que je n'étais pas toute seule aux commandes, le livre moche, il fallait qu'il ne soit pas trop moche. Mmh. C'est-à-dire que ce crayonné qui pose tout, qui pose les cadrages, le découpage, les dialogues, les expressions de visage, il fallait que ce soit compréhensible par quelqu'un d'autre que moi.
Ça, pour que Lola Lafont puisse
le voir et me dire oui ou non. Pour qu'elle puisse me dire est-ce que tu es sûre de telle scène. Il fallait qu'elle puisse intervenir et qu'on puisse avoir un dialogue sur ce document-là. Donc pour une fois, il a fallu que mon livre moche soit pas trop moche. Ouais. Et donc j'ai acheté un cahier avec une forme de livre, avec le bon format, pour faire un truc en m'appliquant vraiment et en mettant déjà quand même pas mal de décors, pas mal de choses, pour lui donner, pour lui soumettre, pour qu'elle me dise oui ou non. Et c'est là-dessus qu'ensuite on a travaillé.
Mais ça veut dire que vos livres moches précédents, ils sont vraiment moches?
Ils sont très schématiques, on va dire. Ils ne servent qu'à poser pour moi des choses pour ne pas les oublier et vérifier que mes doubles pages fonctionnent, vérifier des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à part mes éditeurs, je pense que pas grand monde n'arrivera à les déchiffrer. C'est beaucoup de flèches et de gribouillis.
Ouais. Cette joie que vous avez à vous lancer dans un projet, dans une mise en scène, vous dites que ça vous enlève toute angoisse de page blanche. Ça n'existe toujours pas avec le temps, cette angoisse de page blanche pour vous, une fois que vous arrivez au bout d'un projet?
En fait, c'est parce que c'est pas exactement la page blanche qui m'angoisse. Effectivement, elle arrive pas trop parce que des idées, on en a toujours plein. C'est la peur que l'idée qui me transcende complètement n'arrive pas. Et que je trouve des idées... Je vais essayer d'être claire. On a plein d'idées tout le temps pour écrire des histoires, mais il y en a 99% qui sont achetées. Celle qui est la bonne, c'est celle qui va durer assez longtemps pour qu'après, on puisse travailler de manière enthousiaste 2 ans sur cette idée.
Ouais.
Il ne faut pas qu'elle s'effiloche au bout d'un an, parce que ça va être très compliqué sinon. Il ne faut pas que l'envie et l'excitation...
Oui, parce qu'il peut y avoir une très bonne idée, mais vous sentez qu'elle va vous lasser après 6 mois et que ça va être pénible, donc ça, vous n'y allez pas.
Oui, parce qu'il faut se figurer que quand on commence une bande dessinée, le personnage qu'on dessine, on va le dessiner 12 fois par page, pendant 200 pages. Donc, il faut vraiment, vraiment l'aimer, hein, parce que ça va être très long sinon comme temps à passer avec. Donc il faut être sûr de son coup. Et une fois qu'on a la bonne idée, c'est une certitude que c'est la bonne idée. Ça a été le cas pour La Nuit Retrouvée, par exemple. Mais en attendant, tant qu'on ne l'a pas, on est un peu en attente, en recherche de cette émotion-là. Et toutes les idées à côté paraissent nulles. C'est quand on se dit, mais moi ce que je veux, c'est quelque chose qui me réveille la nuit, tellement j'ai une dernière idée à noter et être complètement... subjuguer, avoir envie d'en parler à tout le monde toute la journée, c'est vraiment, vraiment comme une histoire d'amour. Et en attendant, on a des petites histoires moyennes. Mmh. Et on se dit, je sens que c'est pas la bonne, je sens que c'est pas ça. Et ça, c'est plus une tristesse de page blanche, on pourrait dire, qu'une angoisse. Et moi, quand cette période-là dure trop longtemps, quand pendant trop longtemps, je sens que c'est pas la bonne idée, ça m'attaque vraiment le moral, ça ressemble à de la dépression.
Ouais. Et comment vous faites dans ces moments-là pour... quand même garder le cap et continuer à chercher et à vous dire, je vais trouver...
L'expérience, je dirais, du haut de mes nombreuses années, qui est que je sais que c'est cyclique. Ouais. Que contrairement à ma première impression, ça ne veut pas dire que j'aurai plus jamais de bonne idée et que ma dernière bonne idée est derrière moi. C'est de me dire, n'oublie pas que parfois, ça prend vraiment longtemps. Et en attendant, je me nourris. Mmh. Voilà, c'est que je me dis, ça ne va pas venir tout seul. Il faut lire... parler avec des gens, écouter les histoires des gens, regarder des séries, voir des expos. Il faut se remplir, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on finit par faire germer quelque chose. Et pour savoir si c'est la bonne, il faut s'y mettre, il faut commencer. Mmh. Et on sent tout de suite si ça va marcher ou pas. Pas marcher commercialement, j'entends,
si ça va marcher pour moi.
Ouais. Et je m'y mets, et ça m'est arrivé plein de fois d'abandonner des BD, en fait, de les commencer vraiment... Comme un livre qui nous tombe des mains au bout de 10 pages où on se dit « allez, il faut s'accrocher », ça m'est arrivé de me dire « allez, je m'accroche pour des débuts de BD ». Mais en fait, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas perdre de temps, il faut passer à autre chose.
Vous n'êtes jamais revenu sur ce que vous avez abandonné?
Non,
non,
jamais. C'est la bonne intuition, c'est vraiment l'élan du cœur. Si ça me barbe au bout de 10 pages, ça risque de me barber au bout de 150 quand même. Donc la création d'une bande dessinée, c'est un processus beaucoup trop long pour qu'on puisse se permettre de le faire en étant un peu tiède, voire... un peu à contre-cœur. Il faut que ce soit un cri du cœur, parce qu'il faut, il faut du combustible pour tenir 2 ans. Donc...
Vous dites, la mise en scène, j'adore, imaginer les situations, mettre en scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire hors de la BD? Je pense à la scène, au théâtre, au spectacle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait?
Alors, comme ça, non, pas du tout. Pas du tout.
Dans un film, par exemple.
Non, pareil, je mets ça dans le même sac. À la limite, peut-être plus sur scène que dans un film. J'ai parlé pas mal avec des auteurs et des autrices de bande dessinée que je connais qui sont passés à la réalisation de films, pour qui c'était vraiment une envie profonde. Et ce que j'ai compris de ce qu'ils m'ont raconté, c'est que la grande différence, c'est que... Bon, déjà, la grande différence, c'est qu'en bande dessinée, on est tout seul, ce qui est une de mes grandes joies. Mm-hmm. Je pense que je ne suis pas très bonne en équipe et qu'il faut être très animé par ce qu'on a envie de faire, parce qu'il faut convaincre les gens tous les jours. Il faut convaincre des équipes de travailler et qu'il faut vraiment avoir le feu. Ça, je pense que ce n'est pas un problème. Je pourrais l'avoir, ce feu. Mais le contrôle, comme je vous le disais, moi, je suis tous les acteurs, je fais les décors, je fais la réal, je fais le montage, et c'est vraiment ce que j'aime. C'est le contrôle total, c'est l'impression que c'est mon univers et que ça doit être... Je pense qu'être surpris par ce que les gens proposent, c'est ça qui doit être vraiment un émerveillement dans la direction d'acteur, par exemple, c'est de se dire, moi, je l'imaginais comme ça, mais toi, tu as des trésors d'idées, d'inventions et de techniques que je ne connais pas. Donc, tu vas certainement me surprendre et ça doit être merveilleux. J'en parlais avec Lola qui, en ce moment, écrit une pièce de théâtre et qui écrit des personnages en se disant « Oui, mais voyons ce qu'eux proposeront. » Et ça, je trouve que ça doit être formidable. Mais j'aurais l'impression qu'on m'enlève mes jouets et que moi, c'est vraiment ça que j'aime faire. Peut-être que j'aurais totalement changé d'avis dans 10 ans et que je réécouterais ça en me disant « J'étais vraiment un gros bébé de dire ça parce qu'en fait, c'est super. » Mais j'ai l'impression que les enjeux, la taille du projet, c'est tout ce que j'aime pas. Moi, j'aime être chez moi, à nouveau. J'aime être chez moi toute seule avec mes chats. Et ça me paraît très incompatible avec l'idée de faire des films.
Oui, vous dites que c'est quelque chose que vous avez su très vite, dès la sortie des études, que vous aviez envie d'avoir le contrôle sur tout et de maîtriser les choses seule. Pourtant, vous avez collaboré parfois avec Lola Lafont, vous l'avez fait avec Johan Sfar, et vous dites à certains moments que, effectivement, c'est vous enlever une partie de votre plaisir d'avoir quelqu'un qui scénarise. Donc, mais vous y êtes revenu quand même.
Oui, parce que je pense que c'est important de bien savoir isoler ce qu'on aime dans la chaîne de fabrication. Ouais. Cette expression n'est pas très jolie. Si j'avais envie qu'on m'écrive une histoire clé en main, que j'ai plus qu'à la dessiner, je pense que je le saurais aujourd'hui et que je me dirais, moi, ce que je veux, c'est me concentrer sur mes décors, mes lumières, mes couleurs, le dessin, mais j'aime bien m'en remettre aux idées de quelqu'un. Or, je sais que ce n'est pas le cas. Mais maintenant que je sais que ça ne veut pas dire que pour autant je ne puisse pas travailler sur une histoire de quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que j'aime bien adapter des livres et que j'aime bien les biographies. C'est que j'aime avoir une colonne vertébrale à la base qui ne vient pas forcément de moi. Ça ne me dérange pas du tout. Et être surprise et être admirative de l'histoire qu'on me propose. Je pense que la clé pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut énormément estimer intellectuellement la personne avec qui on travaille, parce que ça permet de lui faire confiance et de ne pas être dans une lutte de pouvoir en se disant « il faut que je gagne cette bataille de la virgule ». Mais se dire trouvons des solutions à deux, et quand ça ne fonctionne pas, continuons à chercher ensemble, et au pire, s'il faut arbitrer, part du principe que l'autre personne a certainement raison. Voilà.
Ah oui, vous êtes capable de laisser la raison à l'autre.
C'est l'intérêt, quand on estime vraiment quelqu'un, c'est ce qui s'est passé avec Lola, c'est de me dire, fais-lui confiance. En fait, c'est quelqu'un qui écrit des livres que tu adores, c'est quelqu'un qui écrit très bien, qui est très intelligent, fais-lui confiance, pourquoi elle saurait moins que toi? Et comme je sais qu'elle était dans le même rapport, aussi dans cette collaboration, on n'a pas rencontré d'obstacles et on n'a pas eu besoin de se bagarrer pour la territorialité des choses. Et il y a eu plein de moments où on a coincé sur des petits nœuds de scénario. Et vraiment, on s'est mis autour d'une table en réfléchissant ensemble. Et c'était très exaltant, quoi. Et quand enfin on trouvait, on était presque à se faire un high five, à se dire on a réussi à venir à bout de ce nœud de scénario. Et j'ai aucun souvenir de moment où j'ai dû me battre pour exister.
Je prends quelques secondes pour vous rappeler que plus ce podcast est écouté et apprécié, plus il a de la chance de vous proposer de nouvelles rencontres inédites. Nous avons donc besoin de vous. Prenez quelques secondes pour nous laisser des étoiles, des commentaires ou pour faire connaître le podcast à d'autres personnes. C'est très précieux et on vous en remercie d'avance.
Réel. Alors le réel, c'est vraiment ce que je préfère raconter des gens auxquels on peut pas forcément s'identifier mais auxquels on peut croire. Je pense que ça passe par plein d'éléments pour lesquels la bande dessinée est parfaitement adaptée, c'est-à-dire qu'en bande dessinée on fait pas que montrer et raconter, on crée quelque chose de plus. On peut essayer de créer la température qui fait, on peut essayer de créer l'odeur que ça sent dans cette cuisine, on peut créer des ambiances tellement précises
qu'on peut vraiment faire des ressentis plus que des informations. Moi, c'est vraiment un travail que j'aime énormément, c'est essayer de rendre le plus crédible possible quelqu'un, la façon dont il parle, qui est quelque chose qui peut, moi, totalement me sortir d'un film ou d'une série. Si je trouve qu'on parle, ou d'un roman, quand les personnages ne parlent pas d'une manière crédible, que je me dis, personne ne parle comme ça, ça me sort. Et bien, de la même manière, je trouve qu'une façon de se remettre une mèche ou de prendre une tasse de thé qui ne correspond pas au personnage, ça me sort du personnage. Mmh. Et donc, je suis très, très attentive à ça. Et c'est pour ça que quand j'essaye de créer des personnages et que je veux qu'ils aient l'air réels et que je veux que du coup, que mes lectrices referment le livre en se disant « ces gens vont me manquer », c'était comme des vrais gens, j'essaye de les construire de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas penser « ah tiens, elle aura des yeux comme ça et des cheveux comme ça », parce qu'en fait, ça, on s'en fout un peu, mais plutôt de me dire « cette personne, la connaissant moi, comment est-ce qu'elle se coifferait? Comment est-ce qu'elle se tiendrait? Comment Je pense que c'est on construit des personnages plus étoffés en les et plus réels du coup, mm-hmm. en les construisant comme ça. Et quand j'arrive à toucher juste avec ça, pour moi le livre est vraiment réussi. Peu importe l'histoire, peu importe les péripéties. Si on se dit, oh, mais je la connais, elle. Je connais des gens comme ça. Je considère que j'ai atteint mon objectif.
Ça veut dire que les personnages, ils sont avec vous tout le temps dans votre tête, quand vous êtes en période de création et d'écriture, ils vous accompagnent tout le temps. Ils sont là, vous y pensez, même si, je ne sais pas, vous sortez dans la rue, vous croisez quelqu'un, ça peut vous taper dans l'œil et vous dire, bah oui, ça c'est un vêtement qu'elle porterait ou ça c'est.
Absolument. Mais de toute façon, je pense que ça c'est le toc de tous les gens qui créent, c'est qu'on. Le monde est une bibliothèque permanente et on passe notre vie à prendre des notes. Par exemple, pour la nuit retrouvée, j'ai passé un temps pas possible à prendre des photos, parfois totalement, même chez des gens, à des endroits, un tapis de bain, une poignée de cuisine, où je me disais, oh, c'est parfait. Parce qu'il me fallait une banque visuelle dans ma tête de choses pour venir justement rajouter des petites couches de cohérence. Et pour les gens, c'est leur façon de parler. C'est d'entendre les gens parler, d'entendre la musicalité de ce qu'ils racontent, le rythme, les pauses. Par exemple, c'est aussi pour ça que je suis très attentive à la ponctuation. Parce que la ponctuation, ça implique quand même une musique dans l'oreille quand on lit. C'est souvent un gros sujet de bras de fer, on va dire, avec les personnes qui font les corrections chez mon éditeur, qui me disent, mais non, là, il n'y a pas de point de suspension, normalement, dans les règles grammaticales. Là, on met après une virgule. Et je dis, oui, mais moi, je veux imposer la façon dont on entend comment les personnages parlent. Et ça, c'est vraiment en écoutant des gens, en entendant même des inconnus à la table d'à côté, au café.
Ouais, on est dans une époque en plus avec les réseaux sociaux et la communication par les messages et tout, où la ponctuation, elle perd un peu de son importance et de son sens au quotidien. Donc vous avez à cœur de la remettre dans...
Ou l'absence de ponctuation qui dit quelque chose aussi. L'absence de ponctuation, elle n'est pas anodine. Ça veut dire qu'on lit la phrase d'une certaine manière. Parfois, ça peut rendre très drôle. Enlever une virgule, ça rend hilarante une phrase. Ouais. Il faut les dire, les phrases, de la même manière qu'il faut jouer physiquement tout ce que font les personnages dans la bande dessinée. C'est ce que je fais, mais c'est ce que font, je pense, toutes les dessinatrices et tous les dessinateurs. C'est qu'on est comme ça chez nous, dans une espèce de l'extérieur, je ne sais pas de quoi on a l'air, mais on joue tout ce qu'on on a besoin de dessiner. Par ailleurs, c'est très difficile de dessiner une expression de visage sans la faire soi-même. Je me mets vraiment au défi quiconque de faire ça.
Et donc, vous vous mettez devant un miroir ou quoi?
Non, mais le visage, maintenant, je sais. Ouais. Il suffit que je le ressente pour comprendre. C'est que je me dis, ça ne va rendre rien du tout en radio, mais je me dis, bon, elle est mi-sceptique, mi-un peu en colère. Et ben, moi, je sais que quand je ressens cette émotion, mes sourcils, je vais les mettre un peu comme ça. Bon. Donc, je me sers de moi comme d'une poupée. Ouais. Mais après, pour la gestuelle, oui, je me lève et je me regarde. Et je regarde et je joue mes épaules. Et quand j'étais étudiante, je faisais des études de cinéma d'animation. Qui m'ont bien servi pour ça notamment, puisqu'on nous apprenait à jouer, à mimer, à surmimer les choses pour repérer les éléments clés qui font qu'une posture est juste. On avait, vous avez un gros sac lourd par terre, il faut le soulever, le mettre sur votre épaule. Quelles sont les étapes? Hop, je le soulève, tac, je le balance sur mon épaule, je me repenche en avant. Et en fait, ça c'est vraiment des clés magiques pour la bande dessinée, parce qu'après en bande dessinée, on ne peut plus avoir toutes les images, on donne quelques images clés à notre lecteur ou notre lectrice. Et après, c'est à lui ou à elle de connecter les points et d'imaginer ce qui s'est passé pendant le vide. Ouais. Donc, il faut être super juste sur les quelques images qu'on donne. c'est l'art elliptique. Voilà, bah, il faut que l'ellipse, on aide la personne qui va regarder à comprendre ce qui s'est passé entre les deux images.
Mais ça veut dire que ça vous arrive de vous lever pour faire un geste quand vous dessinez ?
Ouais. Je suis tout le temps debout. Je suis debout pour regarder, là par exemple dans La Nuit Retrouvée, le personnage de Faustine n'arrête pas, et je pense que ça a été le truc le plus dur à dessiner pour moi, elle n'arrête pas de s'enrouler, se dérouler d'une couverture. Mm-hmm. Et elle se met dedans quand elle a froid, elle la laisse un peu tomber sur son épaule, elle l'ouvre grand, après elle fume, et donc elle a seulement sa main qui dépasse de la couverture quand elle est dehors. Et alors ça, dans mon téléphone, j'ai un nombre de photos de moi avec un châle sous toutes les coutures pour essayer de comprendre les plis, pour essayer de comprendre comment on se le remet sur les épaules. Certainement qu'un jour, je serai capable de le faire de manière totalement abstraite sans regarder à quoi ça ressemble. Mais comme je recherche cette justesse-là, je préfère mimer les choses.
C'est un livre, La Nuit Retrouvée, c'est un livre que moi j'ai trouvé aussi très sensoriel. Il y a la lumière, mais il y a la chaleur, il y a le soleil, donc on a presque chaud en le lisant. On peut ressentir en tout cas ce soleil sur la peau. Vous parliez de la cuisine, mais effectivement, il y a cette cuisine qui est en train de se faire, où on sent la chaleur d'une réunion familiale où on cuisine ensemble. On a des odeurs qui passent. Ça aussi, c'est un vrai travail d'aller sur les sens. C'est pas si évident que ça de retranscrire ça en dessin.
Bah pour moi, c'est la grande magie de la couleur. Oui. Elle me sert à ça, et je trouve elle ne devrait servir qu'à ça. De toute façon, elle devrait servir qu'à donner des informations sensorielles, et pas, c'est difficile de sortir de la coquetterie de vouloir juste faire beau avec la couleur, parce que c'est possible aussi. Oui. Mais de se dire, tant qu'à faire, si elle peut venir préciser ou au contraire totalement casser une image par le fait qu'on va avoir un peu froid, qu'on va avoir un peu chaud, qu'on va sentir, et j'avais des souvenirs sensoriels tellement précis de moments de journée et de soirée dans cette forêt.
Oui, on est dans les Landes. Hein,
Landes au Pays Basque, ouais. Sur la côte atlantique. Et des souvenirs des journées qui finissent très tard l'été, où ça commence à sentir la résine, mais ça sent aussi l'océan, parce que c'est une forêt qui est au bord de l'océan. Et je voulais que ça sente aussi un peu l'anti-moustique, et qu'on y soit avec elle, et puis qu'on sente qu'il fait suffisamment chaud pour qu'elle puisse vivre à moitié en slip sur sa terrasse, mais que quand même le soir, ça se rafraîchit un peu. Et tout ça, il faut l'évoquer d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut qu'au moment du dessin, que je fais au noir et blanc, dans ma tête, et c'était le cas d'ailleurs dans ce fameux livre moche, dans ce cahier, j'avais mis des post-it avec des points de pastel gras, des couleurs qui allaient être celles des ambiances lumineuses, parce qu'il faut que je les note dès le début. Elles disent autant de choses que le dessin, les couleurs. Elles disent que les enfants ont été tirés du lit à 5 heures du matin pour aller voir une compétition de surf, et que le soleil se lève à peine, ouais, qu'il fait froid. Et moi, je me dis, oui, mais on entend déjà les premiers oiseaux. Enfin, tout ça, il faut trouver des façons de le dire. Et je trouve que c'est très poétique de le dire seulement par la couleur. Ouverture. Ouverture, dans le sens ouverture sur le monde, dans le sens...
Je ne sais pas quel est le premier sens qui vous vient.
C'est vraiment un test de Rorschach, en fait. Ouverture.
Je pense à Culottée, notamment, qui a été pour pas mal de jeunes filles. Je suis bien placée pour le savoir, parce que ma fille a été très, très enthousiaste à la lecture quand elle devait avoir 14 ans. Mm-hmm. Ça a été une ouverture sur l'univers des femmes, sur le féminisme. Ça a été une entrée en matière pour beaucoup de jeunes filles qui, par là, ont ensuite pris conscience de certaines choses, et qui, je pense que vous en avez eu pas mal de retours aussi.
Oui, alors c'est très, très flatteur et très ambitieux de dire que ça a été une ouverture sur le féminisme. Mais en tout cas, ça a participé, je pense, à un moment où, de toute façon, il y avait aussi cette brèche qui s'ouvrait pour plein de récits de femmes, à simplement dire, il y avait aussi des femmes. Ouais. Et rien que ça, déjà, c'est très politique, je trouve, de dire... parfois, elles n'étaient pas médailles d'or de l'histoire, on va dire, parce qu'il n'y a pas de place pour elles, parce qu'elles n'avaient pas accès aux bonnes études, parce qu'elles n'avaient même pas le droit de faire les métiers en question, parce que les femmes ont 300 ans de retard dans le sport, pour plein de raisons. Mais parfois, elles sont médailles d'argent. Et déjà, être médaille d'argent, quand on est une femme, c'est exceptionnel. Et si on parle d'une, on aura envie d'en chercher peut-être une deuxième. Et pour moi, à partir du moment où il y en a deux, la porte est ouverte et on y va. Donc, il faut inonder d'histoires de femmes le récit pour que ça ne soit plus un sujet. Et moi, ce que j'observais comme retour qui me faisait très plaisir, c'était quand, évidemment, quand aussi des garçons le lisaient, des jeunes garçons, des petits garçons, qui ne s'offusquaient pas du tout du fait que ce soit 30 femmes dans ce livre, parce qu'ils n'avaient pas remarqué particulièrement, parce qu'ils s'étaient dit, c'est 30 histoires incroyables, des récits de vie où il s'est passé des choses folles, des personnages auxquels on peut, qu'on a envie de s'identifier en tout cas, et sans se dire, bah attends, j'ai rêvé ou il n'y avait aucun mec là-dedans. Et je pense que c'est un exercice intellectuel que nous, les femmes, on a été tout à fait habituées à faire toujours, de s'identifier à des personnages masculins, souvent en faute de mieux.
Oui, et à ne pas s'offusquer d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'histoire de femme.
Voilà, ouais. Ou qu'elle soit là pour...
Oui, pour faire valoir.
Oui, ou pour faire être la cuisine, l'objet de... Oui. Voilà, de
ou plein, l'objet de désir.
L'objet de désir, la demoiselle en détresse, bon, toutes ces choses-là. Et on a toujours pris l'habitude de s'identifier aux personnages masculins parce qu'ils étaient super, héroïques, cool, drôles. Voilà. Donc je pense qu'on peut essayer de neutraliser un peu ça et de faire qu'à force de montrer des histoires, je pense que se dire « je vais raconter des histoires pour mettre en valeur les femmes », c'est pas la bonne façon de prendre le problème. Se dire, elles existent par milliers, ces histoires de femmes incroyables, racontons-les sans en faire un sujet, sans dire ce sont des femmes, oui. Mais en travaillant une qualité d'histoire, de personnage, et ce sont des femmes, accessoirement. Oui. Et alors, voilà, sauf que bah, bien sûr, elles ont des histoires qui sont particulières parce que ce sont des trajectoires de femmes, parce qu'elles sont tellement empêchées, parce qu'il leur a fallu tellement, 3 fois plus de détermination pour y arriver, que c'est bien parce qu'elles sont des femmes que cette histoire est extraordinaire. Enfin, en tout cas, dans le cas de Culotté, le livre est très court si c'était 30 hommes, hein, parce que la plupart, leur combat, ça a été pouvoir faire les études qu'elles voulaient, faire le métier qu'elles voulaient. Bon, si ça avait été 30 mecs, le livre aurait été très fin, quoi.
Oui. Est-ce que la bande dessinée, c'est une bonne fenêtre, en tout cas, pour amener des sujets à des plus jeunes?
Moi, je pense que la bande dessinée, c'est la meilleure fenêtre pour amener tous les sujets à tout le monde, de manière très objective. Je pense que, vraiment, très honnêtement, ça permet tout parce que ça, à la différence de plein d'autres moyens d'expression, ça permet de tout faire. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'image, qui est formidable, on a le silence, on a les mots, on a la composition d'une grande page qui dit des choses et que ça permet... aussi bien pour les sujets très graves que les sujets très drôles. Je pense que la bande dessinée permet tout ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a un petit côté cheval de Troie qui est que, faussement, mais en tout cas, c'est l'apparence qu'elle a, la bande dessinée paraît inoffensive et que personne ne se méfiera d'une bande dessinée. Moi, par exemple, qui ai grandi dans les années 80 et 90, j'ai vu des horreurs quand j'étais petite, des trucs pas du tout de mon âge, des trucs vraiment pas du tout de mon âge, mais personne ne se serait jamais méfié parce que c'était dans une bande dessinée. Donc c'est aussi un outil très... Vraiment, on a une grande responsabilité, je trouve, quand on écrit une bande dessinée, de se dire, attention, tu sais que vraiment ça va se retrouver entre les mains de n'importe qui. Ne pars pas du principe qu'il y aura un contrôle, quoi. Il n'y en aura pas, a priori. Donc voilà.
C'est pas un peu en train de changer ce regard sur la BD depuis quelques années? Enfin, le fait qu'on offre de manière innocente une bande dessinée à un enfant qui pourrait contenir des choses qui ne lui sont pas destinées, est-ce que la BD ne devient pas aussi... Il y a tout un pan adulte qui se développe et où on réfléchit peut-être plus quand on sélectionne aujourd'hui?
Oui, de toute façon, le paysage de la bande dessinée, il a complètement changé par rapport à il y a une trentaine d'années, avec l'arrivée de la BD qu'on a dite indépendante, qui était une BD qui effectivement ne s'adressait plus uniquement aux enfants, tout simplement en se disant... Et si on se disait qu'on peut parler de n'importe quel sujet en bande dessinée et qu'on faisait le pari que ça va être très profond et très beau et on va sortir du format du 48 pages en couleur avec une aventure, voilà, et qu'on va pouvoir rallonger les récits, oser même dans la forme des choses beaucoup plus audacieuses, personnelles, du noir et blanc, des choses comme ça. Et effectivement, ça va permettre d'aborder la même variété de sujets que le roman, que le documentaire. Ça, je pense que c'est... Moi, j'ai connu que cette bande dessinée-là. C'est la bande dessinée avec laquelle je suis née. Et donc, je n'ai pas eu à faire l'effort d'apprendre à regarder cette bande dessinée-là différemment. Et je pense que ce qu'elle a de beau, c'est qu'elle reste, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, ça reste un art qui est extrêmement populaire. Mmh. C'est ça sa grande force. C'est qu'au-delà de se dire pour quelle tranche d'âge, c'est de se dire en tout cas c'est pour tout le monde. Et que c'est en ça que je voulais dire que je pense que c'est un très bon cheval de Troie. Plus que par son côté enfantin. C'est de se dire... Par exemple, il y a des bandes dessinées qui, je pense, ont attiré l'attention des gens sur des sujets pas très sexy, je vais dire. Par exemple, ça a été un très grand succès, une bande dessinée sur le problème des algues vertes en France. Combien de gens étaient au courant de cette histoire? Qui se serait dit, très honnêtement, je vais aller m'écouter un documentaire d'une heure sur ce problème-là? On commence à feuilleter une bande dessinée. Si le dessinateur a bien fait son travail, on a envie de la feuilleter. On n'a pas envie de s'arrêter au bout de 10 pages. Et c'est l'occasion de faire passer tellement de choses Je pense que c'est pour ça qu'on a cette responsabilité entre les mains aussi. Et quand je faisais culotter, je ne m'étais jamais dit que ce serait lu par des gens plus jeunes que moi. Dans ma tête, mes lectrices, c'est moi et mes potes. Enfin, donc, j'arrive jamais à me projeter plus loin. Certainement que j'aurais fait totalement différent si je m'étais mis la pression dès le début en me disant oh, attention, il y a des enfants qui vont lire, et j'aurais fait les choses très différemment. Et en fait, tant mieux que ce n'ait pas été le cas, parce que les enfants, ils sont très intelligents. Et à part, évidemment, il faut les protéger de certaines choses, mais un raisonnement bien expliqué, ils peuvent tout à fait le comprendre aussi, avec souvent moins de jugement d'ailleurs. Donc, je pense que se dire attention, la bande dessinée, n'oublie pas que c'est pour tout le monde. Bien sûr, dans un cadre de pas de choses qui sont visuellement traumatisantes, il faut surtout pas. Et puis, il faut accompagner. C'est-à-dire que parfois, moi, j'ai des lectrices qui me demandent ce serait pour mes enfants, à votre avis, c'est à partir de quel âge? Ou même dans les bandes dessinées que moi je recommande, avec accompagnement, ça change tout. Par exemple, dans Culotté, il y a des histoires qui parlent d'agression sexuelle. Bon, évidemment, je ne le recommande pas comme histoire à lire au coin du lit aux enfants à 4 ans et demi, mais à partir du moment où ce sont de toute façon des questions que les enfants vont se poser, quelle bonne occasion d'avoir cette conversation aussi avec eux. Donc, en encadrant, tout est possible.
Vous dites, depuis le début de cette rencontre, vous avez dit plusieurs fois, mes lectrices.
Oui.
Alors bien sûr, il y a des hommes et des garçons, des jeunes garçons qui vous lisent aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous dites beaucoup mes lectrices.
Oui, alors déjà parce que c'est un petit cheminement personnel, mais psychologiquement, le fait que le masculin l'emporte, même s'il y en a un, ça m'a toujours quand même un petit peu agacée avec le français. C'est-à-dire que de dire mes lecteurs, quand j'ai une file d'attente de 50 personnes et qu'il y a un homme, ça me gêne toujours de les appeler mes lecteurs. Et puis la réalité, c'est que je suis lue beaucoup par des femmes. J'ai un lectorat de femmes qui a mon âge. C'est quand même ma particularité et ma chance. C'est que beaucoup de mes lectrices ont commencé à me lire quand elles étaient, quand elles avaient mon âge, quand j'ai commencé mon blog. Et ensuite, elles ont grandi avec moi. Et je les vois, en fait, je les retrouve et ça me donne envie de parler de femmes qui ont mon âge.
Ouais.
C'est ce qu'on se disait avec Lola, c'est que ça ne nous viendrait plus à l'esprit ou pourquoi aller raconter des histoires d'adolescentes. Déjà, c'est un monde qu'on ne connaît plus, dans lequel je pense qu'on est... Enfin, je parle pour moi là, mais je me sens beaucoup moins pertinente et légitime à raconter des choses comme ça ou alors parler de ma propre adolescence, de mes souvenirs d'adolescence. Et puis, quelle joie de viser juste et de connecter avec des lectrices avec qui on se comprend. Et de me dire, je vais vous parler de quelque chose que je sais que vous pouvez comprendre parce que moi, je le vis aussi. Et je trouve que c'est très joyeux, en fait. Et je me sens très chanceuse d'avoir, quand je les vois en vrai, mes lectrices, ou dans les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, etc., de me dire, quelle chance d'entendre très régulièrement la phrase. J'ai commencé à te lire quand j'avais la vingtaine comme toi. Et je me dis, c'est génial, j'ai trop hâte de raconter des histoires dans 10 ans, qui les toucheront aussi dans 10 ans. Donc, c'est mes lectrices, quoi.
Et dans le sillage de vos lectrices, il y a leurs filles qui sont derrière, en général, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi.
Quand elles viennent à plusieurs générations, et on l'a beaucoup vu là, avec La Nuit Retrouvée, des mères et des filles qui viennent, où elles se l'offrent mutuellement. Ça, c'est magnifique. Et combien de fois aussi, j'ai eu des filles qui m'ont dit, qui me viennent me faire dédicacer une BD, et je demandais, c'est pour qui? C'est pour toi? Elles disent, non, c'est pour ma maman, parce que c'est ses livres que j'ai commencé à lire quand elle achetait vos livres quand j'étais petite. Bon, ça me met un petit peu un coup de pelle dans la tête aussi, mais quand les adultes me disent, je vous lis depuis que je suis petite. Mais c'est magnifique de me dire, elle disait, je piquais les Joséphines de ma mère quand j'étais petite, c'est les premières BD que je lisais. C'est merveilleux, j'ai tellement de chance. Storyteller.
Ouais.
Storyteller. Alors, est-ce qu'il y a un équivalent en français? Oui, c'est narratrice, on peut dire ça,
oui,
ou raconteuse d'histoire.
Oui.
Ouais. Je pense que maintenant que je suis adulte, je comprends que c'est ça que j'aime dans mon métier, que j'aime depuis que je suis petite. Et quand j'étais petite, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me disais, plus tard, je voudrais faire un métier où je dessine, parce que c'était, voilà, et où je raconte des histoires. Et j'adorais raconter des histoires. Et maintenant, je comprends pourquoi. Je pense que ça combinait deux choses qui sont très importantes pour un enfant. Un monde intérieur qui m'appartient et auquel personne n'a rien à redire. Et c'est moi, la limite de la réalité, c'est moi qui l'invente. Et le monde réel a tendance à être un peu nul quand on est enfant par rapport à nos possibilités d'imagination. Donc, se dire, dans mon monde à moi, les murs ne seront pas gris. Moi, dans ma tête, ce sera des murs magiques qui changent de couleur. Et voilà, quelle chance. Et je pense aussi quand même du petit pouvoir que ça donne d'être celui qui raconte l'histoire.
Oui, vous dites, quand on tient des gens en haleine en racontant une histoire, on est la reine du monde.
On est la reine du monde. Et je pense que c'est un plaisir qu'on ressent aussi bien quand on lit une histoire à voix haute à des enfants et qu'on fait des voix et qu'on fait monter le suspense. Et quand on est en train d'écrire une BD et qu'on se dit je vais tourner la page à ce moment-là. Comme ça, ils vont être suspendus. Oh, le temps de savoir ce qui se passe à la case en haut à gauche de la page d'après. Quel pouvoir de se dire... En fait, un peu comme... Moi, je le vois de manière plus triste, comme les enfants à qui on coupe tout le temps la parole et qui n'ont jamais la parole. Et tout d'un coup, on les voit, ils racontent un truc. Du coup, tout le monde les regarde. Ouais. D'un côté, ça leur met la pression. En même temps, ils sont hyper excités parce qu'ils disent oh, « on m'écoute ». Alors, ils parlent plus vite, ils montent en gamme. Et peut-être qu'en fait, les auteurs sont des gens à qui on a beaucoup coupé la parole quand ils étaient enfants et qui se disent « tant que je peux en placer une, je déroule mon texte ». Et c'est vrai que c'est une attention mm-hmm. qu'on nous porte, à nous, les storytellers, pour reprendre le mot du papier, qui est grisante de se dire « je vous tiens tous, vous êtes suspendus à mon prochain mot ». Et je pense que ça, c'est un plaisir vraiment de... Mais je pense que c'est aussi le plaisir des journalistes. Enfin, c'est de se dire, c'est moi qui donne le tempo. Ah, tout le monde m'écoute. Et ça, c'est magique.
Ouais. Pénélope Bagieu, peut-être que les dessinateurs, les dessinatrices, c'est aussi des enfants à qui on a interdit de toucher aux livres d'images quand ils étaient petits. Dans votre chambre, apparemment, il y avait une grande bibliothèque avec les livres de votre mère, parce qu'il n'y avait pas de place pour les mettre ailleurs, qui étaient beaucoup des livres illustrés, des livres d'images, je pense des dessins de presse aussi. Et vous n'aviez pas le droit d'y toucher. Donc, il y avait comme un interdit d'aller... le dessin ou l'image, c'était un truc...
Alors,
donc, il fallait vous inventer vos propres images ?
C'est pas exactement ça. Il faut rendre justice à la collection de livres de ma mère. Ma mère adore les livres illustrés de dessinateurs des années 50, 60 et après. Donc, il y en avait effectivement beaucoup dans ma chambre et j'avais absolument accès à ces livres-là.
Ah oui.
Ceux qui étaient en haut, exprès,
en haut de la
pour que je ne puisse pas les attraper, c'était ces livres, c'était ces pop-up. C'est les livres animés avec des trucs qui se déplient. Ouais. Ça, c'est très fragile. Et que ma mère, je pense, avait bien flairé que je n'étais pas la plus minutieuse des enfants et me disait « cela, c'est seulement avec moi ». Donc il fallait qu'elle me les montre. Mais tous les autres, oh là là, je les descendais, je grimpais dans l'étagère pour les descendre et je les connais par cœur et j'ai passé des heures et des heures juste à regarder les images et je pense que c'est à 95% ma vocation, c'est ça.
Oui, mais c'est vrai que vous preniez parfois un dessin que vous essayiez de reproduire et qu'à partir de ce dessin, vous dérouliez votre propre histoire.
Oui, et puis même à partir des films, je faisais des espèces de contre-histoires de tous les dessins animés que je regardais. Je trouvais que c'était une joie infinie. C'était aussi une très bonne façon de contrer la solitude. Donc, j'étais très contente. En fait, c'était ma compagnie, c'était mon jeu, mes amis, c'était tout. C'était dessiner et rien ne me limitait. Et je pense qu'une chose, une autre chose très intelligente qu'a fait ma mère, au-delà de me donner accès à plein de belles images, c'était de désacraliser complètement mes dessins et le dessin en général. Et donc, d'avoir plein de papiers brouillons, moches, qui traînent partout et des tonnes de feutres qui ne coûtent pas cher. Et voilà. Et pas de dire « attention ». Il ne faut pas gâcher une belle feuille. Attention, ton dessin, après, il est très, très beau. Donc, on va le mettre quelque part.
On va l'encadrer.
Voilà. Ouais. Curieusement, pas trop. Après, en fait, elle a tout gardé. Mais elle m'a jamais... elle a jamais parce qu'il ne faut pas avoir peur de rater un dessin si on veut dessiner beaucoup et si on veut dessiner bien. Et donc, le fait que ce soit comme se gratter, faire un dessin, que ce soit anodin et rien du tout. Et en plus, ma sœur dessinait aussi. Tout le monde dessinait. C'était rien, quoi, de dessiner. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée.
Elle a gardé tous les dessins. En tout cas, elle en a gardé. J'imagine que vous les avez revus. À quoi ils ressemblent, les dessins de quand vous étiez petite ?
Ils ont une ambition très professionnelle.
Déjà, ouais.
On sent que... Bah, parce que ma culture, c'était les livres. Et donc, je me disais, bon, bah, un dessin, il faut que ce soit comme dans un livre, quoi. Donc, déjà, je fabriquais des livres moi-même, en les agrafant. Et j'avais écrit le nom de ma petite maison d'édition et tout ça. Et puis, il fallait que ce soit toujours pour servir une histoire. J'ai très très peu de souvenirs de dessins que j'ai faits qui ne soient pas présentation des personnages. Avant de faire une histoire que je faisais certainement jamais. Mais dans ma tête, c'était dommage de faire juste un dessin. Il fallait imaginer une saga. Donc il y avait toujours des histoires pas possibles. Souvent, c'était des jeunes filles qui étaient des héritières cachées qui devaient vivre dans un château et elles avaient des méchantes belles-mères. Enfin, c'est une espèce de mélange pas très bien digéré de plein de trucs de fiction. Mais voilà, j'adorais les grandes sagas et souvent, ça vient de me revenir, ça commençait par un arbre généalogique où on voyait tout le monde. Et il y avait le grand-père, le machin, la tante qui lui veut du mal. Voilà, et on voyait les portraits de tout le monde.
Dans des cadres, comme vous l'avez
dans
vous
des
avez
cadres,
pu le faire.
Exactement. Et on les faisait à quatre mains avec ma sœur, c'était très important. Il y avait une qui écrivait, une qui dessinait. Et après, on inversait, on se repassait le cahier et c'était à la suivante d'écrire et à l'autre de dessiner. Et pour nous, c'était vraiment mais comme jouer aux cartes. C'est... inventer des histoires et les dessiner. Et on en a fait des tonnes et des tonnes de cahiers, mais vraiment, on a inventé tellement de sagas avec ma sœur.
Est-ce que ce qu'on a dit tout à l'heure de la couleur, des ambiances, des décors était déjà présent aussi ?
J'étais plus attachée aux personnages et à essayer de... Je pense que ce que j'ai beaucoup bossé, au final, depuis
c'est
petite,
ce que vous c'est disiez ça. Aussi, hein,
c'est ouais. de vouloir trouver la bonne... Et ça me frustrait, je me souviens, quand j'essayais de... Quand on comprenait pas l'intention du personnage, j'essayais de le faire en colère, mais on comprenait pas que c'était de la colère. Si quelqu'un, en le voyant, me faisait une réflexion un peu à côté de la plaque, je me disais, mais non, mais c'est pas du tout ça que je voulais. Tu vois bien, il a peur. Il est pas en colère, il a peur. Et donc, je pense que j'ai beaucoup travaillé ça, en fait.
Bah, vocation, vous avez dit le mot. Donc, est-ce que vous avez pensé à un moment faire autre chose?
Oui, bien sûr. Oui. Quand on est tout petit, on ne voit pas le problème à vouloir dire plus tard je dessinerai. Mais après, la vraie vie prend sa place, l'école notamment. Et on commence à se dire, bon oui, mais il faut que je pense à trouver un vrai métier quand même. Donc pendant ma scolarité de collège et de lycée, oui, je me disais qu'il faudrait que je fasse autre chose. J'avais bien envie d'être psy.
Ouais.
Et sinon, je me disais que je serais prof d'anglais.
Et à quel moment vous vous êtes dit, dessinatrice, c'est un vrai métier?
Je pourrais vous dire, si je voulais jouer sur les mots, que j'ai toujours du mal à me le dire, parce que si demain je gagnais au loto et que j'avais plus jamais besoin de travailler, je ferais probablement quand même du dessin toute la journée. Donc, est-ce que c'est vraiment un métier à partir du moment où je le fais pas vraiment pour gagner ma vie? Mais je pense qu'à partir du moment où j'ai rencontré des gens comme moi, c'est-à-dire quand je suis arrivée en école d'art, et que j'étais plus celle qui dessine, celle qui, mais que je me disais, ah oui, on est tous comme ça, on veut tous dessiner, on est des gens, on est réels, quoi.
Ouais.
Ça m'a quand même bien ouvert les yeux.
Pénélope Bagieu était notre invitée dans Les Petits Papiers aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a La Nuit retrouvée avec Lola Lafont qui est parue chez Gallimard, et puis que tous vos autres albums sont d'ailleurs toujours disponibles, hein, Pénélope. Si on a envie de replonger dans les précédents, c'est toujours possible. Merci beaucoup.
Merci, c'était super. C'est super cet exercice des Petits Papiers.
Quelques mini-secondes pour vous dire que Les Petits Papiers ne sont pas filmés, c'est un choix délibéré pour privilégier la parole et les mots, mais ça nous prive aussi de visibilité sur les réseaux sociaux par exemple. On a donc besoin de vous pour nous faire connaître en partageant ce podcast, en parlant autour de vous, en vous y abonnant et en nous laissant des étoiles et des commentaires si ça vous plaît, évidemment.